Merci, merci Jésus pour ce bon culte de ce matin. Merci Seigneur de nous recevoir dans ta présence et nous sommes heureux Seigneur Jésus de pouvoir écouter ta parole encore inspirée et te demander que nous puissions la comprendre, la saisir et la mettre en pratique. Merci Seigneur Jésus, sois béni mon Dieu. Je te prie pour tous ceux qui nous rejoignent sur le net et je te demande mon Dieu que tu parles à leur cœur selon la capacité qu'ils ont de comprendre les choses. Merci Jésus, sois béni mon Dieu. Amen.
Amen.
Merci, merci beaucoup. Merci Olivier. Merci Stéphane. C'est bon de louer le Seigneur dès le matin. Ce matin, j'ai reçu une nouvelle. Une de nos sœurs que nous aimons beaucoup est dans une joie immense puisqu'elle est partie à la rencontre de Jésus. C'est Darling, l'épouse de Roland Launay. Elle est partie vers le Seigneur. Que Dieu soit béni. Elle ne souffre plus dans la condition mortelle. Elle laisse derrière elle, évidemment, sa fille et tous les petits-enfants et toute la famille. Ça fait de la peine pour eux. Mais nous irons les entourer. Déjà, nous prions pour eux, pour qu'ils soient fortifiés. C'est terrible pour Sylvie. Elle a perdu son mari, son papa, sa maman. C'est. Waouh! C'est ça. Mais c'est une femme de foi. Hein? On la connaît, la Sylvie. Et elle va tenir ferme. Nous en sommes certains. Parce que, en fait, nous savons que nous sommes ici pour un peu de temps seulement. Hein? Et plus vite ça passe, mieux c'est. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je veux que ça soit terminé. Je veux que le jour où je m'en vais, ça soit le champagne. Hein? Et que vous vous réjouissiez. Et que vous racontiez toutes les bêtises que je faisais et tout ça. Pas que vous soyez triste. Voilà, Genèse chapitre 3, verset 14. Bonjour à Philippe et Marie-Claire. Nous avons une pensée aussi pour André, notre frère André, qui va se faire opérer demain. Ça, c'est pas rigolo, hein? Mais on prie pour lui, on prie pour vous, mon frère André, on prie pour vous et pour votre épouse Elisabeth, que Dieu vous bénisse. Voilà, c'est vrai, nous n'oublions pas ceux qui sont dans la souffrance. Nous-mêmes, nous sommes aussi dans la souffrance, on sait ce que ça veut dire. Genèse chapitre 3, verset 14. C'est Dieu qui parle au serpent et lui dit, puisque tu as fait cela, vous rappelez ce qu'il avait fait, hein? Tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu ajoute sa bénédiction à cette parole que je vais vous apporter ce matin. Ça ne va pas être simple. Il va falloir vous accrocher. Qui aura le pouvoir du talon? Je ne parle pas du talion, du talon. Qui pourra écraser la tête du serpent? Le talon, c'est notre partie la plus basse du corps, celle qui touche la terre. Et celui qui aura le pouvoir du talon, c'est celui qui aura plongé ses racines non pas dans la terre, mais dans le ciel. Vous comprenez cela? Sur la terre, nous sommes appelés à frapper du talon le serpent qui apporta la mort. C'est la postérité, n'est-ce pas, de la femme, c'est-à-dire Jésus, mais Jésus, nous sommes en Jésus, nous sommes le corps de Jésus, nous sommes ce qui touche la terre. Et c'est nous le talon. Nous avons à écraser la tête du serpent, son talon, le talon, le corps de Christ, le talon. L'Église est blessée, son corps sera blessé. Ce qui touche encore à la terre sera blessé. C'est normal, c'est comme ça. Mais il s'élèvera vers le ciel. Il s'élèvera vers le ciel, celui qui frappe du talon le serpent ancien. Pourquoi il se tourne vers le ciel? Pourquoi il s'élève vers le ciel? Parce qu'il cherche sa force et son inspiration, ne s'attachant pas à la terre ni aux souffrances imposées. On peut s'encrouter dans les souffrances imposées, parler de ça tout le temps, rouspéter, râler, ou alors on peut aller chercher notre force dans le ciel. Amen. Ça c'est bon, ça c'est bon. Nous sommes appelés à plonger nos racines dans le ciel, à s'attacher aux choses d'en haut et non pas aux choses d'en bas, qui sont passagères. Si nous voulons devenir la personne qui porte un fruit céleste, c'est ce que nous devons faire. Sinon, nous allons porter un fruit terrestre. C'est possible aussi, hein. Ça dépend de ce que vous voulez. Quand nous plongeons nos racines dans le ciel, nous plongeons dans ce qui n'est pas encore accompli. Ce qui est accompli, c'est ce qui est ici. Mais il y a quelque chose qui n'est pas encore accompli. Même nous ne sommes pas encore les disciples accomplis. Il y en a qui prétendent être des disciples accomplis, qui ont atteint la perfection à bout filtre, et que sais-je, on voit ce que ça donne, ça ne fait pas envie. Mais il y a des dangers, mes frères et sœurs, à plonger dans ce qui n'est pas encore accompli, et c'est justement là qu'ils se fourvoient, ces orgueilleux. Nous sommes, depuis le jardin d'Éden, des mangeants. Des mangeants. Celui qui ne se nourrit pas de ce qu'il est, ne doit pas chercher à manger ce qu'il n'est pas encore. Nous devons accepter d'être ce que nous sommes et ne pas jouer à ce que nous ne sommes pas. C'est un danger. La connaissance de qui tu es, c'est une nourriture. Connais-toi toi-même, disait l'autre, avant de prétendre connaître Dieu. L'homme, la femme, ont été chassés du jardin d'Éden parce qu'ils ont voulu connaître comme Dieu connaissait. C'est ça que le diable leur avait dit. Hein? Mais non, mais Dieu, arrêtez. Mais Dieu sait très bien que le jour où vous en mangerez, vous serez comme lui. Vous connaîtrez comme lui. Vous serez comme lui. Et l'homme a voulu être comme Dieu. Alors il est mort. C'est-à-dire la personne innocente qu'il était a cessé d'exister. Et comme je vous le disais l'autre jour, ils se sont mis à muter. Alors écoutez, si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire, allez écouter mes prédications d'il y a je crois, il y a une semaine ou deux, et vous allez comprendre. Depuis l'Est d'Éden jusqu'à aujourd'hui, l'homme est un mutant. Il a été livré à lui-même dans un premier temps, et puis il s'est mélangé, c'est-à-dire qu'il a mélangé sa semence avec la semence du serpent, et puis il est devenu un animal. Et Dieu a laissé faire, et puis des anges déchus sont venus aggraver la chose encore en souillant la race humaine. Vous trouvez ça dans Genèse 6 à grande échelle, et ça a été la cause de la destruction que Dieu a décrétée, c'est-à-dire le déluge. Et puis Dieu sépara à Babel, il sépara, et l'homme continuait sa mutation, mais une mutation en régression, ce n'était pas une mutation positive, c'est une régression négative. C'est pourquoi les gens, quand ils disent, l'évolution des mœurs, tu parles. C'est une régression. Mais comme ils voyaient tout à l'envers, Dieu leur dit, écoutez, vous feriez bien d'acheter, surtout ceux dans l'église, vous feriez bien d'acheter un collier pour voir clair. Parce que Ève et Adam, en mangeant avant l'heure, parce que Dieu voulait leur donner la connaissance du bien et du mal, mais c'était lui qui voulait leur donner de sa propre main. Mais comme ils l'ont mangé avant l'heure, prenant ce qu'ils n'auraient pas dû prendre de la main de Satan, le tentateur, ils l'ont pris à cause d'une forme de révolte, ils l'ont pris à cause d'une forme de suspicion. Vous voyez, la suspicion, c'est vraiment un truc du diable. Ils ont soupçonné que les intentions de Dieu, que les faits de Dieu n'étaient pas bons. Comment voulez-vous qu'ils ne soupçonnent pas un autre sujet? C'est normal, ils soupçonnent qu'on les a trompés, qu'on les a volés. Mais tout est écrit. Donc c'est comme ça. Et puis voilà, ils ont tort. Adam et Ève ont tort. Et tous ceux qui soupçonnent ont tort. La Bible dit que celui qui est dans l'amour ne soupçonne pas le mal. Alors, ils sont entrés dans la dissonance. La dissonance a été leur lot. Et c'est encore le lot de l'être humain aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons passé dans une dispensation, depuis que Jésus-Christ est venu, Dieu a envoyé son Fils, et l'homme est appelé à se repentir. Pas simplement demander pardon, mais à se convertir. Se convertir, ça ne veut pas dire rentrer dans une religion. Ça veut dire se retourner. Changer de route, changer de maître. Si l'homme ne fait que se repentir, on voit ce que ça donne, hein, ils vont se repentir au confessionnal, puis sortent de là, puis c'est toujours pareil. S'il ne fait que se repentir, il reste dans sa mutation régressive. Il est un chrétien, ce qu'on appelle un chrétien charnel, un chrétien religieux, il sait des tas de choses, c'est bien, il a une connaissance au sujet de certaines choses de Dieu, mais il ne fait pas fructifier ses talents, c'est-à-dire son potentiel divin, il fait fructifier son potentiel humain. Très possible. Alors, il est renvoyé, peut-être même sans le savoir, il est renvoyé dans les ténèbres du dehors, là où il y a de plus en plus de pleurs et de grincements dedans. Mais si, après avoir rencontré Jésus, si, après s'être repenti, après avoir été correctement baptisé en Christ, vous savez que le baptême d'eau symbolise visiblement le baptême, c'est-à-dire l'immersion, notre immersion en Jésus-Christ. Le baptême d'eau ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est d'être baptisé en Christ, d'être mis en Christ. Et puis le symbole, c'est le baptême d'eau, quelque chose de public, quelque chose qu'il faut faire. Mais ce n'est que le symbole, c'est comme la Sainte Cène, ce n'est que le symbole de notre communion avec Dieu et de notre communion avec les frères et sœurs. La Bible est pleine de symboles, ce n'est pas des symboles qu'il faut mépriser. S'il reçoit le Saint-Esprit, s'il persévère jusqu'au bout, vous voyez que ça en fait des si, eh bien alors il devient une nouvelle âme vivante, un être nouveau, né de nouveau. On ne pourrait pas mettre un peu de lumière là, parce que ce n'est pas très clair. Et il se trouve alors dans la mutation positive, parce qu'il est né de nouveau, voici, merci. Toutes choses sont devenues nouvelles, il est de nouveau dans la position de muter positivement, dans une glorieuse déification. Pourquoi ? Parce qu'il a accès à l'arbre de vie, Jésus. Hein, mangez mon corps, buvez mon sang. Hein, voilà, celui qui mange mon corps, qui boit mon sang a la vie. Ça ne veut pas dire que si tu ne prends pas ta dose, tu n'as pas la vie. Ça veut dire que si tu peux prendre le pain et le vin dignement, alors c'est que tu as la vie. Et alors il est en marche pour devenir semblable à son maître. C'est pourquoi je dis qu'il est dans une glorieuse déification, parce que Dieu, notre maître, c'est Dieu. Et nous sommes appelés à devenir semblables à notre maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. Un disciple accompli à la ressemblance de Dieu. Mais ça implique qu'il ait à obéir aux lois de mutation. Ah, j'explique. Il faut que j'explique. La loi de mutation. Le chemin que nous avons à prendre, c'est le chemin de l'anéantissement. Je vois beaucoup de bouquins qui se vendent au sujet de l'accomplissement personnel. c'est bien, faut... mais le but de Jésus, c'est notre anéantissement, l'anéantissement de la chair. C'est là qu'intervient, après la repentance, après le baptême en Christ, qui est symbolisé par l'eau, après la réception du Saint-Esprit, le baptême du crâne, dont je vous parlais l'autre jour. Alors écoutez ce que Jésus, notre maître, dit, il dit, celui qui s'accroche à sa vie pour la sauver à tout prix, la perdra. Celui qui la perd à cause de moi, la sauvera. Matthieu 10, 38. Écoutez le dire, si quelqu'un veut être mon disciple et marcher avec moi, qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même. Ouh là 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 là. Et qu'il se charge de sa croix. Et qu'il marche sur les traces de mes pas. Et sachant que certains, apprenant que la vie avec Jésus, c'est pas forcément tout rose, et que c'est toujours l'abondance, et que c'est toujours la guérison, et que c'est toujours le calme plat, et que c'est presse-bouton que tout va bien, avec Jésus la vie est belle, hein, et s'ils croient ça, eh bien Jésus a ouvert sa bouche tout de suite pour dire, celui qui refuse, parce qu'il y en a qui apprennent, mais ils veulent pas, alors, celui qui refuse de porter sa croix pour marcher sur mes traces ne peut pas être mon disciple. C'est-à-dire, la porte s'est fermée pour lui. Alors, il ne suffit pas de tout vendre pour être disciple. Bien sûr que c'est un pas, mais ça veut pas dire que parce que tu as vendu un jour ta maison ou ton frigidaire pour entrer dans l'église, comme ça se faisait dans l'église primitive, que ça y est, c'est gagné, tes disciples. Non, 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 non. Il faut que tu portes ta croix pour marcher sur les traces de Jésus. Et où est-ce qu'il marchait Jésus quand il portait sa croix? Il n'allait pas au Palladium. Hein. Et il continue en disant, réfléchissez donc avant de vous engager avec moi, Luc 14, 28. Car si vous n'allez pas jusqu'au bout, les gens et les mauvais esprits vont se moquer de vous. Luc 15, 30. Alors, il y a des gens qui vous disent « Ah, mais t'as bien fait de sortir de cette secte. » Mais maintenant, eux, ils rigolent. Ils se disent « Quelle nouille d'être resté si longtemps. » Et ils se moquent de vous. Et les mauvais esprits aussi, ils vous accusent. Vous voyez, renoncer, porter sa croix, renoncer à sa propre vie, à ses propres droits, accepter quelques injustices, comme l'apôtre Paul le dit, supporter le caractère de ceux qui sont difficiles, persévérer en cela jusqu'au bout, porter sa croix, renoncer à sa propre vie, marcher sur les traces de Jésus, en allant où ? Ben, à Golgotha, au lieu du crâne, pour y être immergé dans la souffrance et dans la mort, c'est ça le plan. C'est ça le plan. C'est pas « Ah, youpi, on est une bande de jeunes, c'est sympa, on vit en communauté, on mange des crêpes. » Ça, c'était les 68 arts. Hein. Mais le vrai message, c'est ce que je viens de vous dire. Quand nous plongeons nos racines dans le ciel, nous commençons à porter des vrais fruits. Pas les fruits de la chair. Non. Il y a des tas de gens qui portent les fruits de la chair. Moi, je connais des tas de vieux chrétiens qui tapent. Ils disent, ouais, faut pas regarder la télé, c'est du diable. Tu parles, ça leur est facile, ils aiment ni la musique, ni la littérature, rien du tout. Ça leur est facile de ne pas regarder la télé pour eux. Hein? C'est charnel pour eux de ne pas aimer la télé. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça peut être un fruit charnel. Par exemple, aussi, on a connu tous ici un frère pendant 30 ans, calme, gentil, jamais un mot plus haut que l'autre. Et pourtant, ce n'était pas le fruit du Saint-Esprit, c'était simplement sa nature, une nature calme, en apparence, dormait. Pour porter du fruit comme Jésus en a porté, il faut puiser à la source, où sur terre, Jésus lui-même a puisé. Il était sur terre, comme on dit, les pieds sur le plancher des vaches, les talons sur terre. met la tête, le cœur dans les étoiles, dans le ciel. Pour Jésus, chaque jour était un jour sur le chemin de l'anéantissement de sa propre volonté. Il le voulait. Jésus a dit, je suis le chemin. Il est ce chemin-là, il n'est pas un autre chemin. Il est ce chemin-là. Observez les choses telles que les religieux ne vous les montrent pas. Osez le faire. Adam avait un côté féminin. Dieu a endormi Adam pour extraire ce côté féminin. Adam n'était plus complet. Il fallait qu'il épouse Ève pour devenir une seule chair complète. Maintenant, regardez ce qui est arrivé au second Adam, Jésus. Pour qu'il ait une épouse, Dieu le Père ne l'a pas endormi. Il l'a tué. Il l'a sacrifié. Et en mourant, il a tout accompli. Il a accompli la naissance d'une épouse divine. Ce n'était qu'une naissance. Il fallait encore que cette épouse meure, elle aussi. Vous voyez ? Elle est morte, effectivement, elle est morte, l'Église en tant qu'entité, elle est morte officiellement à Nicée, au Concile de Nicée. Pour ceux qui veulent chercher, vous allez voir pourquoi je dis ça. Vous allez voir ce qui a été décidé au Concile de Nicée. C'est là que la fausse Église est née, et la fausse épouse est née. Et la vraie épouse, parole, en ce moment même, là, elle est en train de se rétablir. Et la fausse épouse, elle se vautre dans la corruption, ayant crucifié la parole et la recrucifiant à chaque messe, etc., etc. Jésus donc a eu trois baptêmes, trois immersions. Le premier dans l'eau du Jourdain, la deuxième immersion dans sa vie publique. Parce que dans sa vie publique, il s'est mesuré à tous les démons de l'humanité, il s'est immergé dans cette misérable vie. C'est un baptême. Et le troisième, c'est au Golgotha. Baptême du crâne. Golgotha signifie le lieu du crâne. Baptême dans la mort. Est-ce que vous voyez mieux? Savez-vous ce que signifie le mot matrice? D'après le dictionnaire, une matrice est un outillage creux servant à reproduire une empreinte sur un sujet soumis à son action. Alors les éléments dans lesquels Jésus a été immergé sont les éléments dans lesquels nous devons être immergés. Ce qu'il a fait, nous devons le faire. Ce qu'il a vécu, nous devons le vivre. Nous devons marcher sur ses traces. L'eau, le feu, la mort. En ce moment, vous passez par le feu, par un baptême de feu, par une fournaise purificatrice. Pierre écrivait, il disait, mes chers amis, l'épreuve a fondu sur vous comme un feu de brousse. N'en soyez pas surpris, comme si vous arrivait quelque chose d'anormal. Ça veut dire, mais c'est normal. N'en soyez pas surpris, comme si vous arrivait quelque chose d'anormal. Elle éprouve, elle purifie votre foi. Qu'est-ce qui éprouve votre foi? Ben cette fournaise, ce feu. Il dit au contraire, réjouissez-vous, car plus vous participerez aux souffrances de Christ, plus vous exulterez de joie quand il apparaîtra dans sa gloire. 1 Pierre 4, 12, 13. Alors nous sommes entrés et sortis des eaux baptismales comme d'une matrice. Nous naissions de nouveau. Vous voyez, quand on sort de notre mère, il y a de l'eau, on est dans l'eau, on sort de l'eau. Et là, on est sortis de l'eau, les eaux baptismales, le baptême d'eau étant le symbole de cette nouvelle naissance. Et puis nous sommes entrés dans notre vie publique en tant que suiveurs de Jésus, marchant sur ses traces. Commencer, n'est-ce pas? Et bon, il nous a baptisés dans le Saint-Esprit, là, il nous a donné le Saint-Esprit pour qu'il vive en nous, afin que nous soyons soutenus, consolés, édifiés, enseignés, protégés. Et puis, comme Jean-Baptiste l'avait annoncé, il nous a baptisés non seulement de l'Esprit, mais aussi de feu. C'est-à-dire, dans le monde et dans l'Église, au milieu des faux frères, des fausses sœurs. Et pour moi, ça a été terrible. Toute ma vie chrétienne, ça a été une immersion dans ce feu, sans arrêt, sans arrêt. Mais vous savez pourquoi? Mais c'est parce que je suis visible. Parce que je suis public. parce que je parle de ma foi, parce que je vis ma foi, parce que je refuse de me conformer aux religions telles qu'elles sont, parce que je dis ce que je pense, je manifeste ce que je crois, alors évidemment, ça allume des feux un peu partout, aussi bien dans le monde que dans l'Église. Lisez la Bible, et puis vous allez voir aussi comment les vrais suiveurs de Jésus, ceux qui marchaient sur ses traces, ont souffert. Alors, je suis sûr que si on parlait aux disciples qui ont embêté l'apôtre Paul, ils disaient, oui, mais toi, l'apôtre Paul, tu l'as pas connu, hein, avec son sale caractère. Fallait se le faire, le petit Paul, hein. Ah, les gens qui sont petits, parce que Paul, il paraît qu'il était petit. Moi, je suis grand, mais bon, c'est les petits qui m'aiment pas, en général. Quoique. Donc, les vrais suiveurs de Jésus ont souffert le feu, la fournaise de l'épreuve. Pas des difficultés normales qu'ont tous les gens, non, 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 des difficultés démoniaques dues à notre foi qui nous met en action, qui nous met en lumière. Quand on est caché, on ne souffre pas pour Jésus. Quand on ne témoigne jamais de Jésus, on ne souffre pas pour Jésus. On souffre des choses comme tout le monde. Hein ? C'est normal. La pluie, tout ça, c'est pour les bons et les méchants. Mais par contre, il y a une souffrance terrible qui tombe spécialement sur les véritables chrétiens engagés, c'est autre chose, ça. C'est Bill William, le directeur de Teen Challenge, mon ami. On est toujours amis, hein. Il a bien minci, lui aussi. Il est superbe. J'ai vu les photos, là, avec son épouse, Joanne. Il disait, venez à Jésus, vous aurez deux problèmes, un nouveau problème. Vous avez des problèmes, venez à Jésus, vous en aurez un nouveau. c'est vrai, faut pas rigoler, c'est vrai. Mais tout ça, ça nous fait muter, mes frères et sœurs. Là, dernièrement, ils m'ont presque tué. Ces trois matrices, ou ces trois immersions, si vous voulez, elles jalonnent le chemin des mutations. Encore faut-il se soumettre aux lois de mutation. C'est Jésus qui a ouvert le chemin de ces trois matrices. Et comme il les a vraiment vécues réellement sur la terre, dans la chair, dans la condition mortelle, eh bien ça nous permet, ça nous encourage de les vivre aussi. Amen. Qu'est-ce que c'est la vie ici-bas? C'est un chemin plein de barrières que nous devons traverser, que nous devons franchir. Et quand nous les franchissons avec l'aide du Seigneur, eh bien nous intégrons quelque chose de l'énergie, de la vie, de l'énergie qui nous fait muter, qui nous fait grandir, qui nous fait nous rapprocher de notre but, c'est-à-dire d'être semblable à Christ. Tant que nous ne mourrons pas à nous-mêmes, nous sommes dans l'ignorance. Nous ignorons les trésors que nous avons dans le ciel, ciel qui est en nous. Tout ça, c'est en nous. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. C'est en nous. Mais nous ignorons tout ça. Parce que nous ne mourrons pas nous-mêmes. Pourquoi nous ne mourrons pas nous-mêmes? Parce que nous avons peur. Alors on vit comme tout le monde. On va sur notre lieu de travail. On ne se mouille pas. On vit comme tout le monde. Il nous est demandé de nous nourrir de ce trésor, de puiser dans ce trésor pour nourrir notre mutation. Alors, vous êtes les gardiens de votre propre trésor. Veillez sur vous-même, gardez-vous vous-même, c'est ce que Pierre dit. Je crois que c'est Pierre ou Jean, je ne sais plus. Parce que si vous ne faites pas ça, votre trésor peut être dévoré par Satan. À n'importe quel moment. Mais c'est Jean qui dit ça, je crois. C'est Jean 5, c'est vers la fin, vers 18, je crois. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Je vous ai prêché là-dessus il n'y a pas longtemps. Et le malin ne le touche pas, le malin ne le touche pas. Alors je vous pose la question, réfléchissez. Qui a baptisé Jésus au lieu du crâne? Est-ce que c'est Judas? Est-ce que c'est la foule? Est-ce que c'est les fous et les folles qui criaient sur le chemin de croix? Est-ce que c'est Hérode? Est-ce que c'est Pilate? Non. C'est même pas le diable. Le diable ne pouvait pas le toucher parce que Jésus se gardait lui-même. Ni Judas, ni la foule folle, ni Hérode, ni Pilate. Il a donné sa vie lui-même volontairement. Il a dit, personne ne m'ôte la vie, je la donne. Alors bien sûr, pour la petite histoire, il y a eu un Judas, il y a eu une foule folle, il y a eu les disciples lâches, il y a eu Hérode, il y a eu Pilate. Mais en vérité, c'est Jésus lui-même qui donne sa vie. Et mes frères et sœurs, ce qui vous arrive, ce n'est pas la faute des autres. Enfin, pas complètement du moins, c'est juste la petite histoire. C'est la petite histoire minable, de Judas, de folle, de dingo, de disciples lâches, d'une bande d'Hérode et de Pilate. Il y a des Judas dans votre vie, il y a des fous, des folles, il y a des foules, il y a des disciples lâches, des Hérode et des Pilate. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils croient bien faire, ils sont sûrs qu'ils ont raison. Et ils ne peuvent pas vous tuer. D'ailleurs, j'ai dit, ils m'ont presque tué, parce qu'ils ne peuvent pas. Si vous acceptez pas de mourir, vous n'irez jamais sur le lieu du crâne où il vous pousse. Jésus disait, Seigneur, si cette coupe pouvait, hein, non pas ce que je veux, parce que lui, il ne voulait pas tellement y aller, ça lui faisait quand même la trouille, hein, mais mon Dieu, que ta volonté soit faite. Il voulait y aller, mais en même temps, quand même, ce n'était pas rigolo. Si vous n'acceptez pas le baptême du crâne, vous n'irez pas. Alors laissez-les faire, tous ces Judas. Laissez-les faire. Ils ne font qu'accomplir votre volonté. Sur terre, ils ne font qu'accomplir votre volonté d'être baptisé de ce baptême du crâne. Faites comme Jésus. Comment il faisait Jésus? Regardons-le. Il s'est tu, il n'a rien dit, il ne s'est pas défendu, il a laissé faire. Qu'est-ce que je fais depuis le mois de mars? Laissez-les vous juger, vous frapper, vous bousculer dans le couloir, comme l'autre a fait hier avec notre frère Eric qui souffre d'une sclérose en plaques. Elle l'a bousculé, s'est affalé sur la porte, sa canne est tombée, tout. Même pas excuse-moi, rien du tout, pas un mot. Laissez-les vous accuser, vous flageller, vous traiter de démons. Ils vous crucifient. Ils vous aident à accomplir la volonté de Dieu. Ils vous aident à accomplir votre volonté qui est la même que la volonté de Dieu. Certains parmi eux se repentiront un jour d'avoir fait ce qu'ils ont fait. D'autres se pendront comme Judas le fit. Ce qui compte, c'est que vous soyez baptisés du baptême du crâne. C'est le message de la fin des temps pour une épouse mûre. Amen. Jésus, aide-nous à comprendre ce message, à l'intégrer et à accepter d'aller sur le lieu du crâne et d'être baptisé de ce baptême. Seigneur, nous savons que ça va mal dans ce monde. Nous savons que la France baisse les bras, que bientôt ça va être grave pour les chrétiens ici aussi. Et tous ces petits Judas, ces petites foules folles qui nous font de la peine en ce moment, c'est rien du tout à côté de ce qui va arriver avant ton retour. Prépare-nous, Seigneur, aide-nous, afin que nous allions sur ce lieu du crâne avec cette phrase. Ce n'est personne qui prend ma vie, c'est moi qui la donne. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Amen. Amen. Amen.